Voilà, chers amis auditeurs de Radio Maria France, nous retrouvons tout de suite Claire dans nos studios. C'est la revue de presse du lundi.
Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette revue de presse du 14 septembre 2020. Voici les titres de l'actualité. Nous commençons par un sujet qui fait débat entre les enfants et les parents, donc les fameux écrans. Un amour qui devient toxique entre les jeunes et les fameux smartphones. Des parents disent stop, c'est le cas de Gaëtan et Cyril Marthe, qui ont fondé donc une société qui s'appelle Iceberg Digital Conseil, une société donc en Bretagne, au service de tous pour former à l'utilisation raisonnée du numérique. Cet article est issu de L'Homme Nouveau, numéro 17018. Se libérer des relations d'emprise, qu'elles soient familiales, sociales, professionnelles, affectives, comment prendre conscience de ce lien devenu poison et prison et comment s'en sortir. Je vous lirai les conseils du psychanalyste Saverio Tomasella pour le journal de l'Invisible numéro 50. Record d'audience pour M6 avec le téléfilm « Apprendre à t'aimer, peut-être l'avez-vous vu ?» donc de Stéphanie Pilonka, diffusé mardi 8 septembre dernier. Il s'agissait donc en fait d'un couple qui découvrait la trisomie 21 de leur fille. C'est un record d'audience après le match de foot, il y a de l'espoir. Culture chrétienne, en salle depuis le 9 septembre dernier, le documentaire intitulé « Sur la route de Compostelle » réalisé par le duo australo-néo-zélandais Noel Smith et Fergus Grady nous emmène auprès de 6 pèlerins qui ont répondu aux cris de leur cœur et parcouru les fameux 800 km. Et enfin, donc Gaëtan Markt a sélectionné pour vous deux ouvrages, « Comment utiliser les écrans en famille » de Elena Pasquinelli aux éditions Odile Jacob et « Débranchez vos enfants » de Anne Pemira au First Editions. Nous commençons donc cette revue de presse avec les écrans. Gaëtan et Cyril Markt donc ont fondé une société Iceberg donc pour révéler la partie cachée de l'écran. Comment une société bretonne donc se met au service des familles, des écoles, des entreprises et des associations pour former à l'utilisation raisonnée du numérique. L'article est présent dans le dernier Homme Nouveau de ce mois-ci. Elle est travailleur social, lui informaticien. Ils ont en commun une formation en anthropologie à l'Institut Carole Walshtiwa. Gaëtan et Cyril Markt sont aussi mariés et comme tous les parents d'adolescents aujourd'hui, ils ont vu leur petite tête blonde grandir et leur demander encore et encore un smartphone. Ils ont vu ces téléphones avoir de plus en plus de prise sur leur progéniture et se sont demandé comment ils devaient réagir. C'était il y a 3 ans à peu près et je me sentais complètement démunie, nous raconte de Gaëtan Markt. Formée à l'éducation affective, forte d'une expérience au clair avec Teen Star ainsi qu'avec la pastorale familiale du diocèse, elle choisit de sortir de la confrontation directe avec ses enfants et parle, écoute, essaie de comprendre pourquoi et comment le smartphone a pu prendre une place aussi importante dans leur vie. À l'expérience familiale se conjugue l'expérience professionnelle et Gaëtan Markt sait les ravages de l'écran sur les enfants et adolescents, notamment parce qu'ils sont confrontés de plus en plus jeunes et de plus en plus massivement à la pornographie. Comment informer non seulement les enfants, mais aussi leurs parents? Comment lutter contre un fléau qui se trouve à portée de clic? Pour l'année 2019, la plateforme de contenu pornographique Pornhub est à l'échelle mondiale le 10e site Internet le plus visité. Un chiffre qui suffit à lui seul à montrer l'ampleur du problème. De son côté, Cyril Markt travaille tous les jours avec les outils numériques et fait le constat que les enfants ne sont pas les seuls à devoir changer ou ajuster leur rapport à l'écran. Ils voient dans leur milieu professionnel des employés culpabilisés de ne pas répondre à leurs mails à 23h. C'est de tout cela à la fois qu'est né le projet de Gaëtan et Cyril de proposer ainsi formation et conseils pour apprivoiser les écrans. Ils ont fondé leur société le 11 septembre 2019 et l'ont nommée Iceberg, avec l'ambition de montrer ce qui se cache derrière la partie émergée de l'écran. Leur société est composée à la fois d'un cabinet de conseil pour les milieux scolaires, professionnels ou associatifs et d'une association à travers laquelle ils souhaitent développer une dimension plus collective qui intègre d'autres personnes pour organiser des ateliers, des soirées ciné-débats, etc. Nous sommes tous les deux formés à l'Institut Carole Walshtiwa. Nous y avons reçu une formation anthropologique qui se fonde sur la pratique des vertus et c'est ce qui constitue le socle intellectuel de notre projet, explique Gaëtan. Son mari maîtrise l'aspect technique du numérique, elle travaille plutôt la dimension sociale. Je veux pouvoir rejoindre les gens seuls, qui ne savent pas quoi faire par rapport au numérique, qui n'ont pas forcément les ressources intellectuelles pour lire et se documenter sur la question. L'urgence de la situation tient au fait que le numérique donne une intensité inédite à certains problèmes parce qu'il efface toute limite de temps ou de lieu. L'enfant harcelé dans la cour de récréation de l'école sait qu'il sera tranquille une fois chez lui. Dès lors qu'il dispose d'un smartphone, ses harceleurs sont comme tapis dans sa poche. On ne compte plus les ados victimes de harcèlement et de chantage parce qu'un de leurs camarades de collège ou de lycée mal intentionné a réussi à récupérer une photo ou une vidéo de la victime dans une tenue ou pose suggestive pour la diffuser sur Internet. Les élèves n'en ont pas conscience et finissent parfois par l'apprendre à leurs dépens, mais tout est public sur Internet. Ils ont l'illusion des comptes dits privés sur les réseaux sociaux. Ils sont persuadés que seules les personnes abonnées à leurs comptes peuvent voir leurs photos et vidéos. Mais il suffit d'une capture d'écran pour que n'importe lequel de leurs contenus circule librement sur Internet. Faut-il tout interdire, tout rejeter en bloc? Les fondateurs d'Iceberg ne l'entendent pas de cette oreille. Le numérique, d'accord, pourvu que l'outil reste au service de la personne. Reste que le bon usage de ces outils n'est pas inné et nécessite un apprentissage. Le numérique a fait une entrée fracassante dans nos vies. Il est arrivé plus vite que les connaissances pour l'apprivoiser, commente encore Gaëtan. Ces outils sont conçus pour être le plus intuitif possible. Les enfants comprennent très vite comment les utiliser, mais ils ont besoin des adultes pour en faire un bon usage. De leur côté, les adultes doivent être exemplaires et interroger leur propre rapport à l'écran. Si le smartphone est la première chose qu'ils consultent à leur réveil, comment peuvent-ils être crédibles lorsqu'ils critiquent l'usage qu'en font leurs enfants? Un enfant ne perçoit pas forcément que le téléphone est un outil de travail. Pour lui, c'est surtout un jeu, un moyen de regarder des photos ou des vidéos. Aux parents donc de dire qu'il envoie un message pour caler telle ou telle conduite, qu'il répond à un courriel professionnel ou commande un billet de train. Et malgré toutes les très bonnes raisons que nous avons tous de consulter régulièrement nos écrans, nous devons nous interroger sur l'emprise qu'ils ont sur nous. Le smartphone est conçu pour mettre les utilisateurs en réseau, ce qui est la forme nouvelle de la bande d'amis que nous avions quand nous étions plus jeunes. L'enfant a profondément besoin de se sentir appartenir à un groupe et nous devons le prendre en compte. Quand l'adulte dit à son enfant « les réseaux sociaux, c'est nul », l'enfant entend « ta bande est nulle ». Et c'est là que se niche une incompréhension souvent vécue comme irréconciliable. D'ailleurs, c'est à la fois ironique et terriblement révélateur. Les jeunes, les plus dépendants de leur téléphone, sont parfois prêts à vivre une expérience de quelques heures ou jours de déconnexion. Pourvu que ce soit en groupe, justement. C'est ce qu'ont constaté Cyril et Gaëtan avec leur fille, qui s'est passée de téléphone plusieurs jours et a apprécié cette déconnexion parce qu'elle était en camp avec l'aumônerie et que tous les jeunes étaient dans la même situation. Avec Iceberg, les marques veulent soutenir et conseiller ceux qui cherchent une utilisation raisonnée du numérique, en ne versant ni dans l'alarmisme, ni dans l'angémisme, car ils savent combien les dangers sont nombreux. Il faut remettre les choses à leur place. Les smartphones seront ce que nous en ferons, conclut Gaëtan. Voilà, chers auditeurs, vous pourrez retrouver cet article dans L'Homme Nouveau, paru ce mois-ci, et plus d'informations donc sur www.iceberg.bzh. Comment se libérer des relations d'emprise? L'emprise peut se retrouver dans les relations familiales, amicales, professionnelles, amoureuses. Comment prendre conscience donc qu'un lien est devenu une prison et surtout, comment s'en sortir? Les conseils du psychanalyste Saverio Tomasella qu'il a donné dans L'Invisible numéro 50. Une situation d'emprise est une voie sans issue, une impasse psychique et relationnelle tant qu'elle n'est pas démasquée. Elle est une histoire sans fin. Les configurations de l'emprise sont parfois difficiles à reconnaître, d'autant plus si elles s'inscrivent dans le registre de la perversion, où elles sont alors habilement masquées ou camouflées, puis si elles sont pointées du doigt. L'emprise est avant tout mentale. Elle désigne une coupure avec l'esprit, une mainmise sur l'être, l'existence et la pensée d'autrui sous forme de domination, d'influence et de manipulation, dans le but d'en disposer et d'en jouir, voire de le détruire. Dans chaque rapport d'emprise, l'autre est considéré non plus comme un être humain, mais comme un bien, Un ustensile, une chose à sa disposition. Ce seuil franchi du respect vers l'abus, tout bascule dans une forme déshumanisée de lien avec l'autre qui risque tôt ou tard de virer à la ligature, avec toutes les maltraitances qu'elle prétendra justifier pour mieux les faire subir à l'autre en les lui imposant. Toute emprise est hypnotique. Comme une araignée, après avoir tissé sa toile, le prédateur endort sa proie. Il l'anesthésie en obscurcissant sa lucidité, en annihilant son discernement et en brisant son libre arbitre. Flottante, égarée et confuse, il ne lui est plus possible de réfléchir correctement et de se déterminer librement. L'emprise sur autrui correspond à un parasitage pernicieux, une forme de vampirisme invisible qui prive l'autre de son énergie, de sa vitalité et de sa pensée personnelle. L'établissement d'une domination sur autrui s'accompagne d'un contrôle de l'espace psychique, donc la pensée, autant que de l'espace physique, l'intimité. Fondamentalement, l'emprise est une main basse sur l'esprit. Médusé, le prisonnier devient dépendant de son geôlier, pouvant venir à croire qu'il y doit la vie ou que la vie est impossible sans lui. La plupart des emprises sont invisibles, au moins pendant un temps assez long. L'influence qui enferme l'autre est mise en place très progressivement de façon insidieuse. Elle est d'autant plus facile à exercer qu'elle concerne des personnes imaginairement considérées comme inférieures ou réellement en situation de faiblesse, enfants ou vieillards, par exemple. Aussi, la famille est très souvent le premier lieu de l'emprise. L'enfant est dépendant de ses parents pour subsister, mais de façon plus subtile aussi pour entrer dans le monde, s'y conduire et le comprendre. Il va très facilement croire tout ce qu'affirment ses parents, sur eux-mêmes, sur les autres, sur lui, sur la vie, sur le monde, sur l'amour, etc. Tous les discours et les dires prononcés par ses parents vont constituer la toile de fond de son existence psychique, son référentiel, c'est-à-dire l'ensemble de croyances, de valeurs et de critères dont il va se servir pour naviguer dans son parcours humain avec les autres. Si les intentions conscientes ou inconscientes des parents sont respectueuses de la liberté de l'enfant, il s'épanouira dans un climat symbolique favorable à son autonomie et à son indépendance. Sinon, il s'inscrira d'une façon qui lui est particulière dans un schéma de subordination, à autrui et surtout aux figures d'autorité, qui marqueront toutes ses relations à venir, surtout celles plus ou moins teintées d'affectivité, qui sont les relations plus impliquantes pour tout être humain. S'il est tellement difficile de se dégager d'une relation toxique, c'est que l'emprisonneur se débrouille pour faire croire à sa victime qu'elle ne pourra pas s'en sortir sans lui, ou même qu'elle ne pourra pas vivre sans lui. Aussi, l'emprise a-t-elle très souvent des liens avec nos fragilités face à la dépendance. Ainsi, vivre suppose d'accepter les risques de la solitude, du manque et de la finitude. Nous ne pouvons aimer réellement que si nous acceptons de sortir des jeux d'emprise et des enjeux de pouvoir. Alors il devient possible de vivre libre. L'emprise n'est pas une fatalité. Il est possible d'en sortir quelle que soit sa forme, quel que soit le temps qu'elle dure. Tout peut prendre fin, même l'aliénation la plus installée. Par ailleurs, les témoignages montrent que si beaucoup de personnes font l'expérience pénible de l'emprise, elle peut être aussi l'occasion d'une meilleure connaissance de soi, d'une plus grande affirmation et d'une progression vers plus de liberté. Si vous souhaitez retrouver cet article, il vous suffira d'aller sur le site de l'Invisible et de cliquer sur le numéro 50. M6 a enregistré un record d'audience derrière le match de foot avec le téléfilm « Apprendre à t'aimer » de Stéphanie Pilonka. Il s'agissait donc d'un couple qui découvrait la trisomie 21 de leur fille. Presque 4 millions de téléspectateurs. Ce téléfilm, vient de toucher à présent le cœur des téléspectateurs puisqu'il réalise donc la deuxième meilleure audience derrière le match de football France-Croatie. Une performance d'autant plus notable. Tous ces téléspectateurs ont pu s'émouvoir devant l'histoire de ce couple incarné par Julie Debona et Harry Habitant qui découvre la trisomie 21 de leur fille et doit ainsi apprendre à vivre avec et à l'accepter. Sur Twitter aussi, le succès est de mise. Les commentaires émus et élogieux se succèdent tout au long de la soirée. Des témoignages, des partages et des situations vécues, c'est sûr, le téléfilm a trouvé son public. Après la diffusion émouvante, retour donc sur le plateau où l'animatrice de M6, Flavie Flamand, ne cachait pas son émotion et a supposé les bonnes questions aux parents venus témoigner du bouleversement de leur vie, mais surtout de l'amour qu'ils portent à ces enfants extraordinaires. Quant à l'actrice, Julien de Bonnat, elle confie de nouveau sur le plateau sa joie d'interpréter ce magnifique rôle et comment la découverte de ce handicap a totalement modifié sa vision de la vie. Pour ceux qui ont raté la soirée, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de M6 et en attendant, découvrir cet extrait magnifique où le père Harry Habitant découvre la grâce de la danse. Donc toutes ces vidéos sont en ligne. Sur la route de Compostelle, peut-être avez-vous vu ce documentaire, donc déjà en salle depuis mercredi dernier, réalisé par le duo australo-néo-zélandais, donc Noel Smith et Fergus Grady, qui rappelle donc l'ampleur du célèbre pèlerinage de Compostelle et son universalité. La bonne direction, c'est celle qui vous permet de continuer à marcher. Les 6 pèlerins, donc présents dans le documentaire, ont décidé de parcourir les 800 km du chemin de Compostelle. Comment conserver la motivation face aux nombreuses péripéties? Sans doute grâce à la similitude avec le chemin de la vie, il faut avancer pour se révéler ou se relever. L'article est paru dans Aletheia. Environ 25 km par jour, des douleurs dans le corps, de la fatigue, des haltes, un peu d'eau et un esprit de groupe. C'est à peu près le quotidien d'un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi tant de personnes continuent de franchir ces distances et de pousser leur corps à bout? Des changements de vie s'opèrent en chemin. C'est l'un des secrets du Camino. Même si la route ne fait pas toujours de miracles, elle apaise. Ils sont 6 à se tenir compagnie le long du grand chemin d'environ 800 km entre la France et l'Espagne. La plupart ont une vie derrière eux, un passé qui les pousse à revenir toujours à la vie pleine, au lieu de la laisser tomber dans la facilité. Suzanne a passé la barre des 70 ans. Elle souffre d'arthrose et d'une colonne vertébrale déformée. C'est sa 3e tentative de venir à bout du Camino. Terry, lui, marche avec son gendre qui vient de perdre sa fille de 17 ans, sa petite fille à laquelle il avait promis cette marche. Claude a une grande soif de retrouver le contact humain et n'hésite pas à verser ses mots lumineux dans le cœur de ses compagnons de route. Cheryl et Julie, toutes deux grandes marcheuses, s'accrochent aussi à la dureté du chemin, heureuses de se dépasser à travers cette épreuve. Tous ont en commun l'enthousiasme et un profond courage. Entre le chemin, les auberges, les pauses, les peines du corps, les joies à être ensemble, la réponse au pourquoi de la marche se précise. Filmés caméra au point pendant 42 jours, on suit d'autant mieux les pèlerins à travers une image vive, intelligente, au plus près de l'action. Juste assez proche pour saisir la réalité du pèlerinage, de sa verve poétique aux accès de douleur. On redécouvre aussi à quel point l'homme est fait pour la nature, pour l'épreuve, pour le don de soi, car il faut s'oublier pour marcher d'un pied enflé et d'une cheville foulée. Quand on marche pendant des jours sans croiser personne, en s'égarant, mais avec la certitude que tout va bien se terminer, c'est une leçon de vie, nous dit un des pèlerins. Surtout, il y a un bel esprit de solidarité tout au long de la route. Le caractère profondément initiatique du chemin, à travers les épreuves morales et physiques, leur permet de gagner en liberté et en maturité. D'ailleurs, chacun des personnages, sans exception, n'est pas le même à l'arrivée. Ce film est lumineux, apaisant, ressourçant, un verre d'eau fraîche que l'on a envie de mériter après avoir suivi l'appel de l'Ultreia. Donc, il s'agit du documentaire « Sur la route de Compostelle » déjà en salle depuis le 9 septembre dernier. Peut-être êtes-vous allé le voir ou peut-être vous incitera-t-il à tenter cette aventure pour mieux vous retrouver et retrouver l'autre. Je termine cette revue de presse donc avec les deux ouvrages que Guy Dinemarkt, dont je vous ai parlé au sujet de l'association Iceberg pour les écrans. Guy Dinemarkt conseille à tous les parents deux ouvrages qui abordent de manière très concrète la question de l'usage des outils numériques dans le cadre familial. Comment utiliser les écrans en famille, de Elena Pasquileni, paru aux éditions Odile Jacob, et « Débranchez vos enfants » de Anne Peymirin au First Edition. L'un et l'autre offrent de précieux conseils pour aborder la question avec les enfants, comprendre leurs envies, gérer leurs frustrations et surtout les accompagner dans un apprentissage progressif de l'utilisation raisonnée des écrans. Ces ouvrages donnent des éléments concrets sur l'impact des écrans et des jeux vidéo, en particulier sur les enfants, et permettent ainsi également d'appréhender la réalité des réseaux sociaux et des nombreux dangers qu'il présente. C'est la fin de cette revue de presse. Je vous redonne les titres de l'actualité. Tout d'abord, les enfants et les écrans, donc un amour toxique. Gaëtan et Cyril Marcq ont fondé une société qui s'intitule Iceberg pour vous former à l'utilisation raisonnée du numérique. Vous pouvez vous renseigner sur www.iceberg.bzh et retrouver l'article dans L'Homme Nouveau de ce mois-ci. Se libérer des relations d'emprise, qu'elles soient familiales, sociales, professionnelles ou affectives, les liens peuvent devenir poison et prison et il faut s'en sortir. Je vous ai lu les conseils du psychanalyste Saverio Tomasella pour le journal L'Invisible numéro 50. M6 a enregistré un record d'audience, 4 millions de téléspectateurs pour le téléfilm Apprendre à t'aimer, avec donc un couple qui découvre la trisomie 21 de leur fille. La différence est source de fécondité et d'émerveillement. Culture chrétienne, le documentaire sur la route de Compostelle, réalisé par le duo australo-néo-zélandais Noel Smith et Fergus Grady, qui nous emmène auprès de 6 pèlerins qui ont répondu au cri de leur cœur et parcouru les 800 km donc de la France vers Santiago. Et enfin, Gaëtan Marcq, donc, qui a sélectionné pour les parents deux ouvrages, « Comment utiliser les écrans en famille » de Elena Pasquileni aux éditions Odile Jacob et « Débranchez vos enfants » de Anne Pémirin au First Edition. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous dis avec joie à lundi prochain.
Voilà, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, c'était la revue de presse avec...